Vous écoutez RTL.
En attendant, la curiosité, comme promis, avec Thomas et Sidonie.
Oui, avec un héros français méconnu, Émile Coué, l'inventeur de la fameuse méthode. Coué, un pharmacien de Nancy, moqué en France, attaqué par les médecins, est devenu, écoutez bien, une star aux États-Unis. On va découvrir ce grand destin, ce sera vers 14h30 sur RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité des chiens, des toutous, des cabots.
Écoutez, écoutez, vous êtes sur RTL. RTL, première radio de France.
Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc.
RTL.
Moi j'aime les chiens.
Au beau Saint-Antoine, retrouvez mon chien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, où est donc passé ce chien?
La curiosité est un vilain défaut.
On les cherche, on les trouve, on les caresse, on les adore. Ils nous énervent parfois aussi.
Ça peut arriver.
On aime les chiens quand même, globalement. Nino Ferrer, France Gall et Lynn Renaud. Dans cette curiosité, on est parti pour une heure d'histoire, d'anecdotes, de révélations, comme tous les jours. Bonjour Thomas.
Bonjour Sidonie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, vous le savez, on se passionne pour tout. Par exemple, la nature et ses mystères. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ces dernières semaines? Les secrets des rats, des animaux en bord de chemin, des bourdons, des cachalots et aujourd'hui donc passion pour un animal de compagnie.
Le chien. Bonjour Hélène Gâteau.
Bonjour Sidonie. Bonjour Hélène.
Ravie de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes vétérinaire, on vous regarde dans Midi en France sur France 3. On vous écoute aussi sur RTL avec Vincent Perrault les samedis et dimanches à 6h45. Je me demandais, le chien, est-ce que c'est l'animal favori des Français?
Alors, tout dépend si on parle du nombre ou si on parle du cœur, en fait.
Ah, on va parler des deux, tiens.
On va parler des deux, oui. Alors, pendant très longtemps, le chien était l'animal le plus représenté, le plus fréquent en France, l'animal de compagnie. Il a été détrôné par le chat il y a une dizaine, quinzaine d'années.
Que s'est-il passé?
Eh bien, plusieurs choses. Je pense que le chat, on a le sentiment peut-être d'avoir un animal un peu plus mystérieux. On est aussi dans une société qui est un petit peu plus sur le cocooning, peut-être aussi sur la féminité.
Il y a moins besoin de le sortir aussi.
Voilà, il y a aussi beaucoup moins de contraintes entre le chat et le chien. Le chat, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'éduquer, pas besoin de lui apprendre la propreté.
C'est une vraie impression?
Pas tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que ça demande quand même moins d'efforts, moins de contraintes qu'un chien. Maintenant, savoir quel est l'animal préféré des Français, je pense que ça serait un petit peu comme demander à des parents de choisir entre les deux enfants. C'est difficile de dire on préfère le chien, on préfère le chat. Je pense qu'il y en a pour tout le monde et c'est formidable avec ces deux animaux.
Tiens d'ailleurs, autour de la table, Sidonie, votre animal préféré, chat ou chien?
Le chien.
Moi aussi, c'est le chien. Hélène, vous ne pouvez pas choisir. C'est votre métier vous oblige à la neutralité, c'est ça?
Effectivement.
Joker.
Joker, veto, on va dire.
C'est bien vu.
Si on parle de race, est-ce qu'il y a une race de chiens, puisqu'on est là pour parler des chiens, préférés des Français?
Alors, tous les ans, il y a le LOF, le Livre des Origines Françaises, qui sort le classement des races préférées des Français en fonction du nombre de naissances qui ont eu lieu par race, par exemple en 2017. Et donc, ils établissent un top 10 des races les plus, voilà, où il y a eu le plus de naissances. En 2017, les trois premières places du podium sont occupées par des races de bergers. Le 1, c'est le berger malinois. Le berger belge, on va dire. Il y a beaucoup de bergers belges différents, le malinois, le tervuren.
Vous nous les décrivez à chaque fois? Parce qu'on les connaît. Moi, je ne les connais pas forcément bien.
Le berger belge, malinois, c'est, vous savez, c'est le chien qu'on voit beaucoup en chien de sécurité, en chien de défense, en chien de gendarmerie, parce que c'est un chien de travail, en fait. Il peut être utilisé donc en défense, gardiennage, détection, dépistage. Et quand on travaille avec un chien, on a besoin d'avoir des origines généalogiques qui soient assez précises pour être sûr que c'est un chien qui a une bonne ascendance, des parents qui eux-mêmes étaient de bons chiens intelligents et travailleurs. Ce pourquoi, eh bien, les gens qui veulent travailler avec des malinois, ils vont acheter des chiens de race avec des papiers. Donc des chiens qui sont inscrits au LOF.
Donc ça c'est le numéro 1. Qu'est-ce qui vient ensuite sur le podium?
Numéro 1. Numéro 2, eh bien, on a le berger allemand, qui pendant très longtemps, jusqu'en 2016, était le chien préféré des Français et sa place, depuis même je crois 1945, et il a été détrôné par le berger belge seulement en 2016.
Il a plus d'humour, le berger belge?
Alors, peut-être, oui.
Sûrement. Moi qui parle le chien couramment, il est hilarant. Le berger belge, mais alors vraiment, c'est mon meilleur compagnon. Mort de rire tous les jours avec lui.
Comme avec moi, quoi.
Enfin, bon, oui.
Et en troisième position, un autre berger. Ouais. Lui, c'est le berger australien.
Je savais pas que ça existait, ça.
Alors, lui, on le voit beaucoup, c'est un peu le chien à la mode. Mmh. Et cette fois-ci, pas uniquement en chien de travail, mais aussi en chien de compagnie. On le voit beaucoup dans les villes, dans les campagnes aussi. Et alors, son nom peut porter à confusion, car il ne vient pas forcément d'Australie, mais d'Amérique du Nord, comme quoi.
Si on fait un peu d'histoire, Hélène Gâteau, depuis quand l'humain a domestiqué le chien? Est-ce qu'on peut dater ça?
Alors, les scientifiques, les chercheurs ont eu des preuves, vraiment, des vraies preuves, mmh. une certitude. Il y a 14 000 ans, le début de la domestication. Maintenant, peut-être qu'elle est antérieure à cela, mais on n'a pas encore des preuves scientifiques pour l'établir. En fait, le chien, au départ, c'était un canidé sauvage, c'était un loup, finalement, qui s'est rapproché des hommes, des campements des humains, à partir du moment où il y avait la possibilité pour lui de se nourrir, de manger les charognes, finalement, laissées par les humains. Et puis, eh bien, l'humain s'étant sédentarisé, a construit des villages, est devenu agriculteur, eh bien, les chiens, les loups sont restés autour des humains et puis ils ont commencé à se transformer. Il y a eu des mutations génétiques, anatomiques, comportementales, de façon à avoir ce qu'on appelle la domestication.
Tout sur votre chien, c'est le titre du livre que vous publiez, Hélène Gâteau, aux éditions Albin Michel. Quels sont les super pouvoirs de votre chien? Vous saurez tout dans un instant. Restez avec nous, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Ce sont nos compagnons de vie, mais on ne connaît pas tous leurs pouvoirs. Notre invitée, la vétérinaire Hélène Gâteau, nous livre leurs secrets, les secrets des chiens. Premier super pouvoir, spontanément, je vais dire, l'odorat. Qu'est-il capable de sentir? Jusqu'où est-il vraiment meilleur que nous, notamment?
Alors, je parlerais peut-être plutôt de super sens, plutôt que super pouvoir, si on veut être un petit peu... voilà. L'odorat du chien, effectivement, est beaucoup plus développé que le nôtre, déjà d'un point de vue de l'anatomie. C'est-à-dire que sa muqueuse olfactive, elle représente 200 cm², tandis que chez l'homme, ça représente à peu près 3 cm². Donc vous imaginez déjà qu'il y a la place pour avoir beaucoup plus de récepteurs olfactifs dans les narines du chien que dans les nôtres. Et d'ailleurs, on compte à peu près 300 millions de cellules olfactives chez le chien contre 6 millions seulement chez l'homme.
Il s'en sert comment de ce talent olfactif, le chien?
Alors, il s'en sert en respirant, tout simplement. D'ailleurs, on estime qu'il y a à peu près 10 à 15% des inspirations du chien, des respirations du chien, qui ne sont faites que justement pour analyser toutes les odeurs de son environnement.
C'est son sens le plus important.
C'est son sens le plus développé. Il y a également autre chose qui est important chez le chien, qui est aussi présent chez le chat et chez le cheval, c'est ce qu'on appelle l'organe voméronasal. C'est un tout petit organe que nous n'avons pas, qui est situé en arrière des narines et au-dessus du palais. Et cet organe-là, en fait, il est spécialisé dans l'analyse des odeurs et des phéromones que le chien va renifler à longueur de journée.
Ça lui permet de quoi? De s'orienter, de reconnaître peut-être son maître ou
les congénères
chiens,
aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il va être véritablement capable, en allant renifler les fesses de son congénère, d'un congénère, de lire sa carte d'identité. Quel âge il a? De quel sexe? Quel est son statut hormonal actuel? Est-ce qu'il est énervé ou pas? C'est assez incroyable ce qu'il est capable de déceler rien qu'à l'odorat.
Les chiens qu'on utilise aussi pour détecter des maladies, alors ça c'est incroyable.
Eh bien c'est utiliser ce super sens, ce super pouvoir effectivement à des fins utiles pour l'homme. On s'est rendu compte effectivement que les chiens étaient capables de détecter certaines maladies. Alors pour en citer quelques-unes, aujourd'hui il y a des études qui montrent que les chiens peuvent sentir des tumeurs cancéreuses.
Comme le cancer du sein, par exemple?
Comme le cancer du sein et de la prostate. Il y a un groupe qui s'appelle K-Dog Group, qui est en partenariat avec l'Institut Curie, qui a montré que des Malinois éduqués, bien évidemment, étaient capables de sentir sur des lingettes qui avaient été posées contre le sein d'une personne malade, si cette personne était malade ou non, par rapport à une personne saine chez qui on avait posé aussi une lingette.
Avec plus d'efficacité, plus de régularité dans le diagnostic que des diagnostics scientifiques.
De précocité même peut-être.
Oui, de précocité, c'est ça. En fait, sur les 130 femmes qui se sont portées volontaires pour cette première étude, c'est vraiment une première mondiale, il y a eu 100% d'efficacité. Donc en plus, c'est non-invasif, c'est peu coûteux, et puis ça permet des diagnostics assez précoces. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces animaux-là, ces chiens-là, dans les pays émergents, où le coût des méthodes diagnostiques n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, on aurait peut-être là quelque chose d'assez incroyable, finalement. Et on se rend compte qu'il n'y a aucune machine aujourd'hui, aucun objet technologique qui remplace l'odorat du chien.
C'est impressionnant. Alors, Hélène Gâteau, si vous suivez l'émission régulièrement, vous devez savoir que je suis capable de poser les questions les plus improbables.
Et vous le faites,
régulièrement.
Et donc,
je vais le faire encore cette fois-ci. Les chiens au long museau sentent-ils mieux que les autres?
Ben oui,
C'est vrai, le fait d'avoir un museau plus long.
Ben oui, parce que finalement, ils ont plus de surface pour leur muqueuse olfactive, plus de surface pour avoir des cellules, des récepteurs olfactifs. Mmh. Et donc, un berger allemand va mieux sentir que les brachycéphales, vous savez, les chiens qui ont la face écrasée, les, comme les bulldogs, il va mieux sentir.
Donc, et les chiens donc, sentent très très bien. Mmh. Souvent, quand on a un sens comme ça super développé, un super sens, comme vous le dites, Hélène Gâteau, ça veut dire qu'on a d'autres sens un peu moins développés.
Oui,
est-ce que le point faible du chien, c'est la vue, par exemple?
Oui, c'est ça. Alors, il voit bien quand même le chien, mais il voit différemment de l'humain. C'est-à-dire que le chien ne va pas voir les détails. Bon, il n'en a pas forcément besoin.
Il ne voit pas nos rides.
Non, voilà.
Nos bourrelets, tout ça, ils s'en fichent.
Pas besoin de Photoshop avec les chiens, c'est bien. Mais est-ce qu'il voit les couleurs, tiens, par exemple?
Alors, il voit les couleurs. On estime que ça serait un petit peu comme la vision d'un daltonien. C'est-à-dire qu'il va voir les couleurs plutôt pâles, mauve, gris, beige, bleu clair. Il ne va pas distinguer un objet rouge d'un objet vert, par exemple. Et on estime aussi qu'il serait peut-être presbyte et myope à la fois. Pour autant, il est capable de voir une forme qui bouge très très loin, et ça c'est très utile pour lui, qui est un chasseur, un prédateur.
Alors moi, une question qui me fascine depuis longtemps, j'ai eu beaucoup de chiens, c'est la communication avec eux. Est-ce qu'ils nous comprennent quand on s'adresse à eux, et comment se faire comprendre de son chien? On va répondre à cette question dans un bref instant sur RTL.
La musique sur RTL, c'est ça.
RTL vous joue les tubes d'aujourd'hui, mais aussi les plus grands classiques.
Toute la journée, vos artistes préférés sont sur la première radio de France.
On aime la musique sur RTL.
Certains sont grands, d'autres petits, et ils partagent nos vies depuis près de 30 000 ans.
RTL.
Il s'agit du chien.
Va chercher, va chercher.
La curiosité est un vilain défaut.
La souplesse de caractère est certainement la qualité première du border collie.
Thomas Hugues.
S'il y a des gens qui se prennent pour des valises, moi j'ai mon chien qui se prend pour quelqu'un.
Sidonie Bonnec.
I'm the king of the dog.
Mon chien qui se prend pour quelqu'un, c'était Raymond Devos. Mieux connaître son chien, c'est notre mission du jour dans la curiosité avec la vétérinaire Hélène Gâteau. Alors, de nombreux Français, de nombreux auditeurs ont des chiens et soit ils leur parlent un peu de manière un peu gaga comme on peut faire avec des enfants ou alors vraiment comme des compagnons du quotidien avec des grandes phrases, avec des conjonctions de coordination. Et là on se dit, bon, est-ce que les chiens nous comprennent? Vraiment, dites-nous la vérité, alors, on est prêts à tout entendre.
Non, les chiens ont un vocabulaire assez limité. Ils vont être beaucoup plus en revanche réceptifs aux intonations qu'on va mettre dans la voix et à nos attitudes corporelles. Le chien passe énormément de temps à nous regarder. Donc il est capable de tout décrypter, nos humeurs, nos chagrins, nos émotions, ça c'est assez incroyable. Il comprend certains mots, bien évidemment, ce qu'on lui aura appris. Et maintenant, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, Sidonie, qu'on leur parle un petit peu de façon gagatise un petit peu. On appelle cela le dogrel. Dogrel, c'est un langage, un petit peu la façon de s'adresser au chien, où on va parler un peu plus lentement, en ayant une voix un petit peu plus aiguë aussi. voilà. Et comme on pourrait s'adresser aux enfants. Et les chiens, ils sont sensibles, parce que les sons qui ont une haute fréquence sont pour eux beaucoup plus audibles, finalement.
Ils aiment ça, ça marche, bien évidemment. Contrairement aux enfants, parce qu'on conseille plutôt de parler normalement à ses enfants. Là, pour les chiens, au contraire,
on peut y aller.
Mais
d'accord.
Est-ce que c'est le mot ou l'intonation qui compte quand on communique avec son chien?
Alors, ça va être un peu des deux. Il y a des mots, ils vont vraiment savoir, effectivement, par exemple, manger. Viens, on va manger. Je pense que le chien, si vous lui dites manger, manger, ou bien manger, je pense qu'il est capable de faire la différence.
Parce que c'est le truc
parce
le plus
ça,
important
c'est
de la journée.
C'est le plus important pour lui. Maintenant, il y a d'autres choses, ça va surtout être l'intonation, effectivement.
On écoutait l'extrait du sketch de Raymond Devos quand il dit « mon chien se prend pour quelqu'un ». C'est vrai, des fois, on a des attitudes de chien. Par exemple, dans les voitures, on a l'impression qu'un chien qui se met à la place du passager, là, devant, qui tient tout droit, il regarde la route comme si c'était un humain.
Alors,
Est-ce qu'il y a une façon de copier les humains? Est-ce que vous voyez ça chez chien?
Bien sûr, effectivement, parce que je pense que justement, nous sommes deux espèces, le chien et l'humain, qui avons une relation de proximité et d'intimité qui est assez incroyable, alors que nous sommes deux espèces extrêmement différentes. Et ça, c'est possible, bien surtout grâce au chien, qui lui a une adaptabilité sûrement supérieure à la nôtre, justement pour s'adapter à nous et pour essayer de calquer ses comportements par rapport aux nôtres.
De la même façon, et on a tous en tête les premières images d'un dessin animé de Walt Disney, je crois que c'est les 101 Dalmatiens, où on voit les duos ou les couples maître-chien qui se ressemblent. Il y a un phénomène d'osmose ou d'alchimie entre les
Alors là,
et
dans
chien.
Ces cas-là, c'est plus effectivement l'humain, le maître qui va choisir un chien qui lui ressemble, parfois fois inconsciemment, bien souvent inconsciemment d'ailleurs. Après, effectivement, dans l'attitude, je suis d'accord, ça va plutôt être le chien qui, lui, va se calquer pour essayer de faire plaisir au maximum à son maître. Et pour lui faire plaisir, eh ben, il essaye d'être en osmose avec lui le plus souvent possible.
Justement, Hélène Gâteau, comment choisir un chien qui nous ressemble si on n'a pas de chien et qu'on en veut un? Comment on fait? Quelles sont, par exemple, déjà les questions fondamentales à se poser pour ne pas se tromper?
Alors, première question à se poser, c'est quel est votre mode de vie? Est-ce que vous êtes citadin? Est-ce que vous êtes plutôt à la campagne? Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a d'autres chiens à la maison? Est-ce que tous les week-ends, vous allez vous balader? Ou est-ce que vous êtes plutôt sédentaire? Ça, ce sont les premières questions à se poser. Deuxième question, de quel budget vous disposez?
C'est cher un chien?
Un chien, oui, il y a l'achat du chien, si vous décidez de l'acheter chez un éleveur. Ensuite, il va y avoir, bon, après vous pouvez aller en refuge, bien évidemment, où ils sont très très nombreux à attendre des foyers. Il y a les frais vétérinaires qui sont indispensables.
C'est tous les mois le vétérinaire ?
Non, une fois par an, si votre animal n'a aucun souci, ça suffit. En revanche, vous n'êtes pas à l'abri de gros pépins avec votre chien, et dans ces cas-là, la facture, elle augmente assez, assez rapidement. Il y a l'alimentation. Et puis ensuite, comme question à se poser, c'est est-ce que vous avez l'habitude des chiens, ou est-ce que vous êtes plutôt un novice, auquel cas,
alors par exemple, moi je suis une citadine. Oui. J'aime bien sortir le week-end, mais enfin pas non plus passer ma journée dehors.
Oui.
J'ai une petite fille de 3 ans.
Oui.
Qu'est-ce que je choisis comme chien?
Et au départ, vous êtes plutôt quoi? Gros chien ou petit chien?
Ah, plutôt petit chien.
Plutôt petit
mais
chien.
Mais pas trop petit, moyen, vous voyez.
En ce moment...
Vous pouvez avoir les mensurations. Je... précis, c'est pas assez précis, non, madame Bonnec.
Pas minuscule, pas Paris Hilton, pas un chihuahua, pas non plus la grosse
et pas...
bête.
Voilà. Peut-être qu'un cocker pourrait vous plaire,
Sidonie. Ah oui, c'est une bonne idée, ça.
Non, c'est un chien qui a une mauvaise réputation dans les années 70.
Ah, je veux qu'il ait bon caractère aussi.
Oui, mais ça, c'était vraiment les années 70-80. Aujourd'hui, c'est terminé. Et puis, son caractère, ça dépend à la fois de son ADN, mais aussi de son environnement. Et puis, ça dépendra de vous aussi.
Bon, moi, je ne voulais pas déranger l'achat du chien de Sidonie. Tout sur votre chien, c'est le titre de votre livre publié chez Albin Michel. Hélène Gâteau, on a encore plein de questions à vous poser. Tiens, par exemple, le pédigré, c'est un mot qu'on entend souvent. Mais c'est quoi précisément un pédigré? Réponse à venir sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
La curiosité a du chien aujourd'hui, voilà. C'est ce que j'ai trouvé pour commencer, ça vous
plaît. Vous devriez la déposer, franchement. Oui, ça
j'ai quand même pas
d'argent.
Le melon à ce point-là. Nous sommes avec Hélène Gâteau, vétérinaire, qui nous explique les secrets des chiens. Et puis, vous nous donnez aussi des conseils pour savoir bien choisir son chien, pour faire une bonne rencontre. Alors, on est dans une société où il y a toujours beaucoup de papiers pour tout. Alors, je me disais, est-ce que quand on achète un chien, il faut aussi qu'on ait des papiers? Je sais pas, on parle souvent de pédigré, je sais même pas ce que c'est. Est-ce qu'on doit l'obtenir? C'est un document qu'on doit garder? À quoi ça sert?
Alors ça, c'est pour les chiens de race, donc c'est-à-dire des chiens qui ont une généalogie, une ascendance que l'on peut déterminer. Et dans ces cas-là, le pédigré, c'est son ascendance, en fait, finalement. Mais si vous adoptez un chiot, si vous achetez un chiot de race, vous allez avoir ce qu'on appelle un pédigré provisoire. Parce que, vu ses parents, il rentre normalement dans les critères de race. En revanche, quand il aura un an, si vous voulez qu'il soit lui-même un chien de race officiellement reconnu, il faudra le faire passer devant un juge pour savoir s'il correspond à tous les critères anatomiques, morphologiques de sa race. Maintenant, aujourd'hui, en France, on a beaucoup de chiens, on a des chiens avec des papiers, des chiens avec des pédigrés, mais la majorité des chiens qui sont en France, ce sont des chiens qui ne sont pas officiellement
c'est des
de race.
Croisés, c'est ça? Des bâtards?
Ou des apparentés. C'est-à-dire, voilà.
Mais ils ne sont pas moins sympas.
Non,
ça ne change rien. Quoi,
ça ne change rien. Non, bien sûr. En fait, voilà, le pédigré, un chien de race officiellement acheté chez un éleveur, ça permet de connaître sa descendance, son ascendance. Pardon.
On a quoi? On a le nom des parents,
parents,
des grands-parents,
les éventuels,
loin,
voilà,
des photos d'identité.
Est-ce que c'était des champions ou pas des champions? Ça va, du coup, en plus, avoir une influence sur le prix du chien. Mais j'ai envie, vraiment, en France, ce n'est pas du tout la majorité et vous pouvez très bien adopter un chien dans un refuge auprès de particuliers sans qu'il ait forcément de papier et c'est pas pour autant qu'il n'en sera pas un super chien.
Si je vais dans un refuge et que je croise un chien, je peux avoir un coup de cœur, c'est ça? On le sent au coup de cœur?
Alors, il faut y aller plusieurs fois, généralement dans un refuge, pour prendre connaissance avec l'animal et puis essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur son histoire pour savoir si son passé sera compatible avec votre vie.
Ouais. Merci beaucoup Hélène Gâteau, c'est un régal de vous avoir dans la curiosité. Comme à chaque fois, tout sur votre chien, c'était chez Albin Michel. Et puis sinon, vous êtes dans Midi en France, sur France 3, et puis sur RTL, évidemment, les samedis et dimanches à 6h45 avec Vincent Perrault.
Merci,
à bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous écoutez RTL.